France Culture présente le forum L'année vue par les sciences, samedi 22 février de 9h30 à 18h30 dans le Grand Amphi de la Sorbonne à Paris. 5 tables rondes avec notamment Gérard Berry, Nicole El-Khaoui, Jean-Pierre Luminet, Marie-Monique Robin et une leçon de clôture prononcée par Pascal Pic. Entrée libre et gratuite. Programme, inscription, franceculture.fr. France Culture, une radio du groupe Radio France.
France Inter.
La voix est libre.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Aujourd'hui, lundi 17 février, dans le Trégor, il n'a pas plu. Ça s'arrose.
Salut Daniel, j'ai écouté ton émission sur la peine de mort, là, elle m'a refroidi, là. Purée, m'a fait peur, là. Oh, ce mec, quand il parle, là, oh là là, il m'a tendu quand j'étais en train de conduire, là. En plus, là, prime de tête. Purée, j'ai halluciné, prime de tête. Enfin bref, oh, ça m'a fait froid dans le dos, là. Moi, je suis né en 78, je sais pas ce que c'est que la peine de mort en France. Ah bah purée, si ça revient, bah attends, tu m'as tendu. Hein. Enfin bref, allez, salut.
Bonjour Daniel. Voilà, j'ai écouté ton émission sur la peine de mort aujourd'hui et ça m'a fait penser à la chose suivante. Je suis enseignante dans un lycée de centre-ville au Puy-en-Velay et l'an dernier, à l'occasion d'une discussion de débat avec des élèves, je me suis rendu compte que sur 24 élèves de première série économique et sociale, 22 étaient en faveur du rétablissement de la peine de mort. Horrifié par ces chiffres, j'ai pris le temps de discuter avec eux. Aucun n'avait jamais entendu parler de la notion d'erreur judiciaire. Et il se trouve que c'était quelques semaines après l'acquittement de Marc Machin. Aucun n'en avait jamais entendu parler. Alors j'aurais posé la question de comment ils s'informaient, par quel biais ils s'informaient de l'actualité. Et alors ils m'ont ri au nez. Mais madame, on n'a pas le temps de regarder la télé. Mais madame, on n'a pas le temps d'écouter les informations. Même pas les 5 ou 10 minutes d'informations sur France Info. Madame, vraiment, on n'a pas le temps. Et ils étaient hilars de... que j'ai pu imaginer une seconde qu'ils avaient quelque chose d'autre à faire que surfer sur Facebook le soir quand ils rentrent chez eux. C'était Christelle, au Puy-en-Velay.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe et à tous les AMG. Le prochain repère de Verdun aura lieu mercredi soir à l'Estaminet, comme d'habitude, avec pour thème cette fois-ci le droit à la différence. Donc on vous attend nombreux à partir de 20h30 à l'Estaminet à Verdun.
François Hollande veut rendre la France attractive, mais rien de plus simple, il suffit qu'il démissionne.
Salut à tous, je ne sais pas si vous vous souvenez de Lassner, cet escroc lettré du 19e siècle, guillotiné un lundi. On lui attribue volontiers cette dernière parole. Voilà une semaine qui commence mal. Pardi. Pas comme là-bas si j'y suis, évidemment. Voilà, bah, c'était Jean-François en Ariège.
Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des très tôt et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau se levait tôt, ce qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux dans la rue des blancs manteaux.
Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, l'auteur des paroles de la rue des blancs manteaux, et c'était chanté par Juliette Gréco aussi. J'ai bonne mémoire pour ça. Merci à tous pour ces messages, chers AMG. Un petit rappel pour commencer, le soutien aux anciennes salariées de l'usine Samsonite de Rouvroy. Elles ont besoin de sous. Il faut leur envoyer des sous pour qu'elles puissent aller jusqu'à Boston, toutes ensemble avec leur avocat, pour l'audience du procès qu'elles intentent contre Bain Capital, grand groupe hyper capitaliste, très très méchant, avec ses petites ouvrières si gentilles et que nous soutenons. Et je me trompe tous les jours sur le code postal de l'adresse, alors je vais vous le donner très correctement aujourd'hui. Envoyez vos dons à l'ordre de AC Samsonite, AC Samsonite, et l'adresse c'est AC Samsonite, 5 rue de la Mairie, 62 320 Rouvroy, je me gourais tous les jours. Alors c'est 62 320, je recommence tout, AC Samsonite, 5 rue de la Mairie, 62 320 Rouvroy, voilà, d'avance pour ce que vous ferez, merci. Ça vous dit quelque chose, ça il faut avoir de la bouteille pour que ça dise quelque chose. Ah, nos chers AMG. Femme de Tunisie contre patron français. Voilà notre sujet du jour. On est allé en Tunisie, du moins Antoine Chao est allé en Tunisie. Pourquoi donc ? Eh bien parce que là-bas, il y a des femmes qui se battent pour défendre leurs emplois, pour défendre leurs conditions de travail, comme partout, effectivement, dans le monde, c'est vrai. Mais là, c'est contre une entreprise française qui a délocalisé, comme beaucoup d'autres entreprises françaises, en Tunisie. Et ben voilà, elles se battent. Vous vous souvenez de la révolution tunisienne? Non? Oui, vous vous souvenez, la révolution de Jasmin, il y a eu un enthousiasme extraordinaire, il y a juste 3 ans, pile poil, 3 ans, un petit peu, voilà, c'était le 14 janvier 2011, cette révolution, quand Ben Ali a fait ses valises. Alors, il y a eu un enthousiasme, il fallait absolument être là-bas, il fallait aller à Tunis, oh là là, comme c'était formidable. Et puis, bon, bah, 3 ans après, on dit quand même, hein, ouais, bon, ah oui, ah, si, il y a eu la Constitution, ça c'est bien. Mais enfin, quand même, la Tunisie, et on murmure, c'était quand même mieux avant. Enfin, voilà. Surtout si vous avez une entreprise, si vous êtes français, si vous avez une entreprise là-bas, c'était quand même beaucoup mieux avant. Hein. C'était la stabilité, la tranquillité sociale, une main-d'œuvre habile et docile. Ça marchait beaucoup mieux au point de vue économique. Hein. Et voilà. Et elles se battent, ces femmes. Et elles disent le syndicalisme n'est pas un crime. Les travailleurs et travailleuses tunisiennes ne sont pas des esclaves. Elles sont en lutte, elles se battent avec une énergie, avec une détermination assez formidable, très touchante, qu'on a envie de soutenir. D'autant plus, je le répète, qu'une entreprise française est impliquée dans cette affaire. C'est notre sujet du jour, femme de Tunisie contre patron français. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie JCO au 01 56 40 37 37.
Je suis en train d'écouter l'émission de ce lundi. Je trouve très bien qu'on rappelle que Mitterrand a fait couper beaucoup de têtes. C'est seulement dommage qu'on attende qu'il soit mort pour le dire. En ce qui concerne Fernand Yvetot, je trouve que ça serait juste honnête d'ajouter que le Parti communiste auquel il appartenait a envoyé quelqu'un à Alger pour faire réunir sa cellule et pour faire voter son exclusion comme provocateur. Puisque en 57, le Parti communiste français n'était pas du tout partisan de l'indépendance de l'Algérie. Il soutenait le gouvernement de Guy Mollet et qui faisait la guerre à outrance par les moyens que nous connaissons. Salut.
Bonjour à tous les AMG, plus particulièrement aux AMG du Bourbonnais. Brigitte, Stéphane et Gérard vous invitent à leur prochaine édition du Café Repère, là-bas si j'y suis, le jeudi 20 février 2014, donc jeudi prochain, à 19h. Le thème du jour sera aménagement urbain et local, décision et décideur. Venez nombreux et soyez loquaces. Bonne journée, merci.
Ouais Daniel, il serait temps que tu refasses une émission sur les petits vieux qu'on abandonne lâchement à leur sort. Là, il y a un cas tragique en Angleterre, une pauvre petite vieille. Attends, j'ai noté son nom quelque part. Elizabeth Quinn. Figure-toi que l'administration veut lui sucrer une partie de sa pension, alors que la pauvre petite vieille, elle a même pas d'argent pour s'acheter une voiture. Elle est obligée de se déplacer dans une calèche avec des chevaux. Elle habite une grande bâtisse vétuste alors qu'elle peut à peine marcher. Le truc fait des milliers et des milliers de mètres carrés. Enfin, bon, et là, la Chambre des Lords, je crois, veut lui sucrer une partie de sa pension. C'est scandaleux, quoi, quand on voit ça. Il est temps de refaire une émission sur le sort des petits vieux, quoi, parce que c'est écœurant.
Bonsoir, je m'appelle Charlotte, j'étais salariée des librairies Chapitre. Nous sommes 434 salariés à nous retrouver sans emploi et on a besoin de votre soutien puisque on a très très peu d'indemnités et là on occupe les locaux pour au moins avoir des indemnités dignes de ce nom. On a fermé notre librairie le lundi 10 février au soir et depuis mardi 11 février nous occupons les locaux jour et nuit, donc on se relaie par équipe, on dort à la librairie. On a vraiment besoin de vous. Merci pour votre soutien. Merci encore. Au revoir.
Regarde les étoiles. Regarde les étoiles. Regarde les étoiles ou c'est en colline.
Il y a un bombage là sur le mur à côté de la porte et c'est marqué on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Merde. Et Monia, combien d'employés ont arrêté le travail alors aujourd'hui ?
J'ai le travail, presque 45 employés.
Là, il y a une marche maintenant, c'est ça ?
Pour soutenir un syndicaliste licencié.
D'une autre société française.
D'une autre société française.
Pas décidément,
oui.
Hein.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Antoine Chao, femme de Tunisie contre patron français.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Sonia et Monia, là on prend un grand taxi, c'est des taxis collectifs.
On prend un taxi collectif pour qu'on aille à l'IGTT de Naarhus.
Pour aller à l'UGTT.
À l'UGTT Benarus. Puis on va aller à la société SEA La Telec à Fouchena.
Alors SEA La Telec.
Société équipement aéronautique La Telec, groupe La Tecoer.
C'est où Benarus ?
Benarus. C'est ton gouvernement. Benarus.
C'est le Grand Tunis, c'est la banlieue. Quoi.
La banlieue industrielle, c'est la plus grande zone industrielle, c'est à Benarus.
Donc là, vous allez aller distribuer des tracts, oui, pour appeler à la grève et au blocage demain,
oui,
de l'entreprise,
oui,
la Telec.
Oui.
Donc vous avez déposé un préavis de grève pour demain et après-demain.
Oui.
Et la direction est en train d'essayer d'empêcher
les employés.
De les dissuader
pour...
de faire grève.
Oui.
Par contre, la TECOER, ils disent toujours qu'il n'y a pas de problème.
Alors, la TECOER, c'est une grande entreprise française, hein, de construction aéronautique, qui est basée à Toulouse et qui a ouvert une filiale en Tunisie il y a 14 ans. Ça se passait plutôt bien, donc elle a ouvert une deuxième,
atelier
de câblage,
oui,
à Fouchana, dans le gouvernorat
de
Benarus.
Oui. L'ouverture, c'est en 2005,
oui,
et nous nous sommes recrutés
en 2006.
En 2006.
À l'UGTT Benarus.
Alors c'est quoi l'UGTT ?
Le syndicat majoritaire à la Tunisie et le premier syndicat qui était installé à Tunis.
L'Union Générale Tunisienne du Travail qui revendique 750 000 membres a de quoi faire trembler le mouvement islamiste Ennahda.
France 24.
Mais sous le régime de Ben Ali, le premier syndicat tunisien n'avait pas autant de poids.
8 février 2013.
À l'époque, on n'a pas trouvé de soutien, ni des pouvoirs politiques, ni de l'organisation syndicale du pays.
Adnan Hadji, porte-parole de l'UGTT.
Parce qu'on était considéré comme hors la loi. Il ne faut pas oublier que les autorités m'avaient interdit de militer pendant 5 ans.
Mis au pas par l'ancien président, l'UGTT a été en première ligne des manifestations qui ont conduit à la chute de Ben Ali au moment de la révolution. Aujourd'hui, l'UGTT revendique un rôle qui va au-delà du simple syndicat.
L'UGTT, elle n'est pas une force apolitique, c'est une force sociale et syndicale. Mais en même temps, elle a fait de la politique depuis sa création. Pendant l'indépendance nationale, les GTT ils sont leaders. Farhat Hachette a emmené notre pays vers l'indépendance.
UGTT, le grand syndicat tunisien, effectivement colonne vertébrale de la révolution tunisienne, compte 3 membres. Je ne sais pas comment on dit membre au féminin, je ne sais pas s'il y a un féminin de membre syndical, mais il en compte 3 qui font beaucoup de bruit dans ce pays et hors de ce pays. Et jusqu'ici, elle s'appelle Sonia, elle s'appelle Monia et elle s'appelle Rim. Et ces 3 femmes mènent le combat. Un combat difficile contre une entreprise française qui s'appelle Latécoère. Ça vous dit quelque chose, Latécoère? À ceux qui ont lu Saint-Exupéry et qui se souviennent des vols de nuit, ben c'était sur ces appareils. C'est une vieille marque d'avions français. Aujourd'hui, cette entreprise existe toujours. Elle est à Toulouse et elle fabrique des éléments pour des avionneurs, pour Airbus, pour Dassault, etc. Et en 1998, Latécoère délocalise en Tunisie, près de Tunis, et crée 450 emplois, essentiellement des femmes, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'évidemment les salaires sont très bas, la tranquillité sociale, salariés, dociles et habiles. Et puis, il se passe qu'il y a une révolution en janvier 2011, vous vous en souvenez, Ben Ali fait ses valises, et chez Latélec, c'est le nom de la boîte Latécoère à Tunis et Latélec, les ouvrières s'organisent et montent un syndicat, une section syndicale, avec l'UGTT dont on vient de parler. Et c'est un succès sur 450 employés, 420 s'inscrivent au syndicat et obtiennent certains résultats. Bon, augmentation de 16 centimes d'euros de l'heure, la régulation des heures supplémentaires, 15 jours de congés payés légaux plutôt que 10 accordés jusque-là. Voilà, c'est quand même, c'est pas la révolution, mais c'est une amélioration très sensible. Mais ça ne plaît pas trop à la direction, ça ne plaît pas trop à cette direction, cette pression syndicale, et Latélec va relocaliser son entreprise, va ramener son entreprise à Toulouse. Une partie de l'activité va revenir à Toulouse. Alors évidemment, pour les salariés de l'entreprise de Toulouse, eh ben c'est une bonne nouvelle. Le boulot revient, les emplois reviennent à Toulouse. Évidemment, ça crée une cassure entre les salariés tunisiennes en l'occurrence, et ceux de Toulouse. Et une fois que le syndicat de tunisien est cassé, bien évidemment, puisque les emplois ont été supprimés, eh bien, l'entreprise revient en Tunisie. La manœuvre, la manipulation, elle était bel et bien de casser ce syndicat. Lors du forum social en 2013 à Tunis, ces femmes, ces syndicalistes, Sonia, Monia et Rim, font du bruit devant l'ambassade de France pour dénoncer ces manipulations, pour dénoncer ces conditions de travail. Après quoi, à la demande, pense-t-on, affirme-t-on, d'Airbus, qui trouve que c'est très mauvais pour son image, eh bien, elles sont virées. Elles sont licenciées, elles sont une dizaine comme ça à être licenciées. Et depuis, eh ben, elles se battent, elles se bougent, elles sont soutenues dans leur pays, elles sont soutenues un peu partout dans le monde, elles sont soutenues aussi évidemment en France. Et c'est pas facile parce que la situation économique de la Tunisie est difficile, parce que évidemment les entreprises françaises qui sont encore un millier environ en Tunisie, qui emploient à peu près 100 000 personnes, menacent toujours de partir. Écoutez, si vous voulez plus, si vous voulez qu'on augmente les salaires et les conditions de travail et la sécurité, etc., on va partir. Donc il y a un chantage permanent de ces entreprises. Il y a aussi, bien sûr, de la part des salariés, on rentre la tête dans les épaules, on se tait, on compose, on s'écrase, et c'est dire si la lutte syndicale, la lutte pour les droits les plus élémentaires, pour les droits du travail, sont difficiles dans ces conditions, eh bien cette lutte, elle a quand même lieu, et elle fait l'objet de soutien de la part des autres salariés et de ce syndicat, l'UGTT. Voilà notre sujet du jour, une lutte encourageante de l'autre côté de la Méditerranée, dans un pays si proche de nous. C'est jusqu'à 16h, ou presque, c'est la basse édition.
اللي بنات ورجال ناري يا بلادي الشعب القى ما يختار من بي جديد متخبي ولا انت يا زي لي شم ولي دو لا ميزير لو مال دو فيور لو مال دو ناتر با ليبر لو سان نا با كولي بور كو لا ريفولت سوا فولي تي بي ان لارم تي زيو ان سون à l'aube du grand saut des tristes tropiques aux grandeurs utopiques comme se larme le courage pour dénoncer les pillages notre cri à l'infini le rêve commun d'une autre vie Ya Shab El Karim Ya Shab Ya Hami Ya Shab Ya Meski Ya Shab El Kabir
Jebali, la secrétaire générale du syndicat SOA Latilek Fouchena. J'ai travaillé à cette usine en 2006, voilà le 18 juillet 2006. Je suis licenciée en 2012. Pourquoi ? On a créé un syndicat en 2011. On a travaillé sur les conditions de travail, on a amélioré les conditions de travail. On a travaillé sur le congé, on a travaillé sur les heures sup, on a travaillé surtout sur les salaires de misère, on a travaillé d'arrêter les dépassements, les abus, les harcèlements sexuels. Et bah, la direction, ils ont décidé de nous licencier.
Il y avait des harcèlements sexuels à la Télec ?
Oui, à l'époque, oui. Bon, en septembre, ils ont fermé l'usine, le 20 septembre, dans lequel ils ont noté qu'il y a une séquestration et insultes par le syndicat UGTT envers la direction. C'est 2012 qui a augmenté les salaires des employés 30%. En septembre, ils ont fermé l'usine, ils ont décidé de nous licencier. Les employés, ils ont refusé notre licenciement. Ils ont lutté un mois en grève pour nous garder. Et bien, en octobre, le 18 octobre, le client, l'Airbus, l'est arrivé en Tunisie pour calmer ce problème. Ils ont signé un PV avec l'UGTT dans lequel retour de
tous... Ils ont signé un accord, c'est ça ?
Un accord, oui, un accord. Dans lequel retour de tous les employés avec le syndicat pour reprendre leur travail. Après, on a retourné au 18 octobre, on a trouvé l'usine fille est vide, il n'y a pas de production. Ils ont pris la production temporairement à Tarbes. Ils ont arrivé à licencier 220 contractuels. Et après, ils ont décidé de licencier les gens en contrat de durée indéterminée pour faire peur les gens titulaires. Ils ont dit qu'il y a un refus de travail. Par contre, on n'a pas de produit à faire. Quel produit, quel refus de travail? Et après, pas de production, pas des employés qui luttent pour leur syndicat. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont licencié une deuxième fois le syndicat. Et moi, maintenant, licencié.
Parce que 10 mois maintenant.
10 mois. Le 15 avril 2013. La direction a proposé des indemnités. On a refusé les indemnités parce qu'on veut notre droit d'abord comme des travailleurs. On ne va pas l'accepter, on va lutter jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement pour Sonia et Monia, les employés, mais pour tous les syndicalistes et les travailleurs de la Tunisie et pourquoi non, du monde.
Du monde.
Voilà, et on va réussir.
Ils vous ont proposé de l'argent ?
Oui, ils ont proposé de l'argent, ils ont proposé un salaire de cadre et une poste importante, ils ont proposé une voiture à moi, le secrétaire général. L'avocat, il m'a dit, on a des infos que vous habitez très loin et vous avez des problèmes pour le transport. On a décidé, nous, la direction, de vous offrir un petit cadeau. C'est quoi le cadeau? Il m'a dit, une voiture. Mais pourquoi? Il m'a dit, je suis comme votre frère. Ben, je sais très bien que j'ai 6 frères. J'ai pas 7 frères. Elle m'a dit, bon, vous êtes libre, mais c'est un petit cadeau. Et tous les syndicalistes en Tunisie, ils acceptent les cadeaux. Pourquoi toi, tu n'acceptes pas? Je lui dis, non, je suis là pour travailler, c'est pas pour prendre le cadeau. Et si j'arrive à signer ce projet, peut-être je peux acheter une voiture toute seule. Aujourd'hui, je suis fière. D'abord, je suis fière parce que nous sommes le premier syndicat en Tunisie qu'ils ont, ils ont refusé l'indemnité. Ils ont lutté pendant 10 mois pour leur réintégration. Deuxièmement, je suis fière parce qu'il y a des gens, des employés, des travailleurs à l'ESSO, à la Télèque, malgré tout ça, malgré les menaces, malgré les conditions de travail terribles, ils sont prêts de faire le grève avec nous. Je suis contente aussi, on est arrivé à convaincre l'UGTT, le syndicat de la France, le syndicat de la Tunisie, de faire une solidarité et de lutter. Je suis contente pour tout ça. Je ne suis pas contente parce que notre pays, jusqu'à maintenant, prend l'employeur comme le premier décideur. Et ça, c'est pas bon. On veut travailler, on veut les usines ici, mais c'est pas comme des esclaves.
Il y a deux drapeaux rouges.
Tunisien et l'autre drapeau, c'est de l'UGTT.
C'est une petite bâtisse blanche dans un quartier de la banlieue de Tunis. Voilà.
C'est la photo de Farhat Hachet, fondateur de l'UGTT, dans laquelle est écrit « Habouk al-Shab » en arabe, c'est-à-dire «
Je vous aime, le peuple ».
Voilà, « Je vous aime, vous, les peuples ». « Habouk al-Shab ».
Et donc, il l'a fondé en 1946.
Oui.
Le syndicalisme n'est pas un crime, les Tunisiens ne sont pas des esclaves.
Ce sont les cartes postales qu'on a fait pour envoyer à François Hollande. On a fait 6000 de ces cartes postales qui sont envoyées à François Hollande par nous, les syndicats.
Mais qu'est-ce qu'il a fait encore, ce pauvre François Hollande, dans cette histoire?
Il parle seulement. Il fait que le film François Hollande. Il arrive en Tunisie, il parle beaucoup de la démocratie, le droit syndicat. Et le respect et tout, et après, c'est fini. Et nous sommes exploités par les patrons français. C'est la contradiction.
La Tunisie célèbre sa nouvelle constitution. 12 jours après l'adoption de la loi fondamentale par l'Assemblée nationale constituante,
Euronews.
Les autorités ont organisé une cérémonie symbolique ce jeudi, en présence de plusieurs dirigeants, dont le président libanais et français.
7 février 2014.
C'est un texte majeur. Parce qu'il est le fruit d'un compromis institutionnel que vous avez été capable de nouer ensemble. Et enfin, parce qu'il peut servir d'exemple et de référence à bien d'autres pays. Vous avez donc l'obligation de réussir. Vous montrez que la démocratie vaut pour tous les continents. Vous incarnez l'espoir dans le monde arabe et bien au-delà.
On l'avait dit, la révolution tunisienne, comme les autres révolutions voisines d'Égypte, et d'ailleurs, ce sont des processus, c'est pas un jour on fait la révolution et le lendemain tout s'arrange. Bien sûr que non, c'est lent. Il faut des maturations, il faut des luttes, on avance de 3 pas, on recule de 2 pas, mais des choses se font, et cette constitution semble, on verra à l'usage, semble effectivement rassurer pas mal de monde en Tunisie et dans le monde, et les Tunisiens sont assez fiers, semble-t-il, de cette constitution. Mais il y a d'autres conflits, il y a d'autres façons de voir ce qui se passe dans ce pays. Ce qui nous est rapporté très souvent, c'est le conflit, les islamistes contre les laïcs, mais il y a tout simplement aussi la lutte des classes, la lutte de l'exploitation des travailleurs, des salariés, et là en l'occurrence des femmes dans cette entreprise française qui caractérise ce qui se passe dans ce pays. Et c'est vrai que le président français a été enthousiaste vis-à-vis de cette constitution, ce en quoi il a probablement raison, mais concernant les entreprises françaises qui sont présentes en Tunisie, il a été extrêmement discret, pour pas dire tout à fait silencieux, ce qui ne manque pas de rendre assez enragé ces femmes qui luttent tout simplement pour leurs droits.
Je me présente, Mounia Dridi, 31 ans, syndicaliste de section EGTT au sein de la SOA Latelec, groupe Latécoère. Maintenant, je suis renvoyée, licenciée, avec expérience de licenciement 10 mois.
Et là, c'est l'heure de la prière, c'est ça?
Oui.
Et c'est les femmes qui mènent la lutte, là, hein? c'est les femmes qui mènent la lutte.
Ah oui.
Fouchana.
Toujours en Tunisie.
Toujours en Tunisie.
Oui, en Tunisie, oui. On a gagné la bataille de la Constitution avec les femmes. On était, comment dire, dans les luttes, la plupart des luttes devant la Constituante.
Les femmes, ils ont été plus nombreux que les hommes devant la Chambre Constituante.
La plupart des fois, les hommes étaient dans les cafés.
Allez maintenant.
Et vous demandez votre réintégration, hein.
Oui,
c'est ça. Voilà, oui. Tout comme Sonia.
Oui. Et voilà. Tous nous sommes 10, licenciés et les 10 demandent que la réintégration.
Ici, à la Télèque, et on vient d'arriver devant l'entreprise.
Oui.
Voilà.
La direction, elle va voir Sonia et Monia et Wassila, elles vont être perturbées.
Là, il y a une voiture qui s'est arrêtée devant, là, en cours. Hop. Société d'équipement aéronautique. SEA La Télèque. Groupe Latécoère. Entreprise sous douane, accès interdit à toute personne étrangère à la société.
C'est un membre de syndicat qui est encore à l'usine.
La femme qui était là?
Oui.
Ah oui.
Elle va coller ses papiers dans le tableau d'affichage de syndicat parce que la direction a collé que le grève est illégale. Avec ce tract, on va dire que c'est faux et ce grève est illégale avec la signature de l'UTICA.
L'UTICA, c'est l'organisme qui défend les employeurs, les patrons. Ils sont avec nous, ils disent non, c'est pas vrai, votre grève, c'est illégal.
Et donc là, il est bientôt 4 heures et les ouvriers vont sortir. Enfin, les ouvrières, parce que c'est 80% de femmes qui travaillent
oui.
À la Télèque. Ouais.
Dans quelques minutes, 2 minutes, elles vont quitter les yeux.
Ah, ça y est, la porte s'ouvre, là, la grille bleue.
Ça va? Ça va?
C'est la distribution des tracts.
Oui.
Voilà. Là, il y a tous les employés qui sortent, ouais. Voilà, qui viennent vous faire la bise. Ouais, Sonia, tout le monde vient faire la bise. Et Monia aussi.
Ça va, ils ont 10 ans.
Ah, c'est les grandes embrassades.
Ça va,
ça faisait longtemps que vous ne les voyez pas?
Oui, longtemps.
Et elles ont défendu vos droits, alors
vous avez... Oui, bien sûr. Ils ont défendu,
il faut qu'elles reviennent, c'est ça, vous êtes pour leur réintégration.
Oui, 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 on a besoin, on a vraiment besoin qu'ils reviennent.
La sortie des usines La Télèque, à Fouchana, Ben Abous, Tunisie. Il y a des hommes aussi qui sont là, des jeunes hommes qui viennent. Ah, c'est Sonia qui prend le tract. Et demain, vous serez là pour les soutenir.
Inch'Allah, demain, nous sommes là. Après demain, nous sommes là. Et après, on nous sommes là.
On va faire le grève.
C'est les larmes, presque.
C'est les larmes. C'est la reine de l'espoir.
Sonia, ah oui.
C'est l'idéal syndicat de Fouchena.
Pourquoi elles ont été licenciées alors?
Pas le syndicaliste, la direction gouverne tout. À demain.
Et vous leur manquez, hein, tout là.
Hein.
Never.
l'heure de l'embauche. Et donc là, il y a les camarades, les employés qui refusent de prendre le travail, qui ne vont pas prendre le travail aujourd'hui.
Oui. Ils nous ont rendu notre dignité, on n'en avait pas avant. Rien que la dignité des travailleurs, on l'a eu. Dès qu'on a eu un syndicat, c'est 2011.
Depuis 2011.
On le voulait depuis avant la révolution. Nous, on voulait avoir un syndicat depuis avant, mais on a eu un peu de liberté à ce moment-là. On a eu un peu d'avantage avec la révolution, un peu de liberté. La situation, elle n'est pas très bien. Regardez, la société tunisienne, elle ressemble à notre entreprise. Des menaces, des pressions. C'est la même chose.
Et là, vous deviez prendre le travail à 8h normalement ce matin, c'est ça?
À 8h.
Et donc, vous ne rentrez pas dans l'usine?
Grève. On reste soutenir nos amis. Nous savons ce que nous faisons.
Vous n'avez plus peur?
Vacciner contre la peur. Fadina.
On en a marre.
De quoi?
De situation de travail.
Mais pourtant, il y a beaucoup de chômage en ce moment en Tunisie. On pourrait dire que vous êtes presque des privilégiés d'avoir du travail aujourd'hui en Tunisie.
Ce n'est pas un service qu'on nous rend de nous embaucher.
Dans ces conditions?
Massouna, Baad. Ils nous ont bien pompés ici, ils nous ont bien utilisés.
Ça va, Mounia? Elle est là, Rim?
Oui, Rim.
Alors, comment ça va?
Je suis licenciée en bonne santé.
Vous n'avez pas d'indemnité, pas de salaire,
non,
rien du tout?
Oui. Non, mon père est décédé, ma mère elle n'a pas un salaire fixe, elle ne travaille pas. Mon frère, il travaille.
Il est renvoyé. C'est une jolie syndicaliste.
Je crois qu'il aura la même sanction que moi.
Vous êtes mariée ou pas?
Non, célibataire, heureusement. Parce que la vie sociale en Tunisie, elle coûte cher. Il y a beaucoup d'obligations, location de la maison.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous marier économiquement? C'est difficile de créer un foyer, quoi, de créer une famille?
Oui, c'est très difficile. Notre salaire est trop bas dans toutes les sociétés en Tunisie.
Je peux vous demander quel âge vous avez, Rim?
32 ans.
Et combien d'années ici, alors, à
SEA? Dès 2005.
Depuis 2005?
Oui.
La société, elle n'était pas complète. Au lieu de murs,
mais vous êtes des héroïnes de la production de la Télèque.
Il n'y avait pas de plafond.
Travailler le samedi, le dimanche, à 19h. On reste ici jusqu'à 20h. Je rentre chez moi trop tard.
Et sans lumière, hein? Oui. Dans le temps, sans lumière. Il n'y a pas les poteaux de lumière.
Ici, dans le quartier, c'est vrai que c'est une zone industrielle un peu quand même.
C'est risqué.
Et après tout, c'est comme mauvais conditions. Aujourd'hui, je suis licenciée. Je suis la meilleure contrôleuse aussi.
Oui, elle a eu le certificat.
J'ai eu le certificat de la meilleure contrôleuse.
Oh ben merci, Rim. Alors, Serge Dassault va vous remercier parce que vous travaillez ici pour Dassault Aviation. Boeing aussi, vous faites les circuits électriques, c'est ça?
Oui, j'étais la contrôleuse de surveillance.
Qu'est-ce qu'on fabrique ici à SEA, à la Télec, donc à la Société d'équipement aéronautique et la Télec?
On fabrique le câblage d'avions.
On fait le commande vol aussi.
Mais pour quels avions alors?
L'Airbus. A320 Airbus.
Ah, c'est vous qui fabriquez la 320 d'Airbus?
Oui. Aussi, il y a des employés qui fabriquent l'F7X. C'est un avion privé.
De quelle société, vous savez?
Dassault. Au sein de la SEA, la Télec.
Le Dassault Aviation. Vous savez qu'il a des problèmes en ce moment, Dassault. Hein. Il faut être indulgente avec.
Oui, c'est un Dassault, le milliardaire.
Il a beaucoup de problèmes avec la justice en ce moment. J'en t'ai quoi? L'hymne national.
C'est l'hymne national qui est devenu le chant de la révolution comme symbole de récupération de l'hymne national du parti pendant l'insurrection et les manifestations qui ont mené à la révolution.
Alors là, il y a les ouvriers en grève qui tapent sur la grille de la Télec, la société d'équipement aéronautique la Télec, et qui chantent l'hymne. Alors Sonia, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dialogue qui essaye de s'instaurer par-dessus la grille ou pas?
Bon, ici, le nombre de l'UGTT sont en train de prendre le drapeau dans l'usine pour montrer à la direction qu'on va lutter jusqu'au bout. Et vive l'UGTT!
Il a raison quand même Antoine. Elle pourrait penser un peu à ce pauvre monsieur Dassault qui a des ennuis avec la justice, et puis Airbus quand même, c'est une fierté nationale, c'est nos entreprises françaises, elles sont impitoyables, hein, ces femmes et ces... Alors on a vu le patron, Daniel Bérardeau, alors on se demande d'ailleurs pourquoi elle lui en veut le temps, il est gentil, il veut du dialogue social, il pense que ça va s'arranger, mais là en manque de chance, il ne pouvait pas entrer dans les détails, il nous a dit, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais enfin, à mon avis, avec un gars comme ça, ça va probablement s'arranger. On écoute encore quand même un peu ces syndicalistes tunisiens.
Donc c'est le secrétaire régional de l'UGTT de Ben Arous, c'est la région de Ben Arous ici qui est montée sur la grille et qui prend la parole. Devant, alors il y a plus d'une centaine maintenant d'ouvriers, de militants qui sont là devant.
Salutations à tous les travailleurs et les syndicalistes qui sont venus ce matin. C'est très désolant de voir. C'est très émouvant de voir des travailleurs payer 300 dinars prendre un taxi ce matin et venir soutenir les grévistes de la Télec, cette entreprise qui a jeté à terre toutes les lois et tous les engagements professionnels qu'elle s'est pris et qui exploite tous ces travailleurs, y compris ceux de la sécurité qui sont là, qui surveillent cette grève. Là, alors qu'ils travaillent en sous-traitance et tout ça à cause de leur besoin de travail.
Soyons unis, travailleurs, contre
contre le pouvoir capitaliste.
في نفس هذا التوقيت مرة أخرى زملائنا والخدامة في تولوز في مدينة تولوز ما عندهاش بقعة في بنعروس.
Les sociétés qui ne respectent pas le droit syndical n'ont pas leur place à بنعروس.
كل الشركات اللي تحترم خدمتها واللي تحترم الحق النقابي مرحبا بهم. ما عندنا حتى مشكلة مع المستثمرين.
Nous n'avons aucun problème avec les investisseurs étrangers tant qu'ils respectent le droit syndical et le droit des travailleurs. Mais ceux-ci ne sont pas des investisseurs, ce sont des colonisateurs, ils ne respectent rien.
Le comité de soutien de Toulouse, qui est quotidiennement en contact avec le gouvernement, et quotidiennement ils s'engagent avec nous, et nous leur disons que nous sommes sur le principe, que nous
Le comité de soutien de Toulouse nous appelle tous les jours pour prendre des nouvelles et nous disons à eux et à tout le monde que nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer.
Et à nouveau, voilà, il y a les militants qui secouent la grille. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Selma, là ?
Travail, liberté, dignité nationale.
Le slogan de l'UGTT, quoi, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et de la révolution aussi, il a été beaucoup dit.
Mais c'est le slogan de l'UGTT en particulier ou de la révolution ?
Non, de la révolution et des travailleurs.
Le slogan de la révolution et des travailleurs, d'accord. Donc il est repris
et
souvent.
Et des chômeurs d'ailleurs aussi.
Et ouais, c'est ça.
Bogdiri Mohamed Ali, le secrétaire général régional de l'UGTT de Benarous. J'ai pris la parole. Bien sûr, on est contre, bien sûr, le licenciement abusif des ouvrières dans le cadre de la répression sur les syndicats. C'est le comportement général, si vous voulez, des capitalistes qui veulent s'installer en Tunisie et qui pensent que l'ouvrier tunisien, puisqu'il est pauvre, il peut accepter n'importe quoi. Vous savez que nous sommes dans la plus grande zone industrielle de la Tunisie. À Benarous, on a 500 syndicats de base, dont 300 dans le secteur privé, et qui vont bien sûr protester d'une manière commune contre ce mode et ce comportement qui est anormal de la direction. Vous savez qu'en même temps, il y a un arrêt de travail, une manifestation, si vous voulez, à Toulouse et au Brésil aussi, à la télé. Prolétaires de tout le monde, unissez-vous. Nous allons travailler sur ça dans les années qui viennent, bien sûr.
Il y a un bombage là sur le mur, à côté de la porte, et c'est marqué « On lâche rien !» avec un point d'exclamation. « On lâche rien » devant la grille de la Télec, de la société d'équipement aéronautique, la Télec à Fouchana. « On lâche rien !»« On lâche rien !» C'est clair. Et Monia, combien d'employés ont arrêté le travail alors aujourd'hui ?
J'ai le travail, presque 45 employés.
Là, il y a une marche maintenant, c'est ça ?
Pour soutenir un syndicaliste licencié.
D'une autre société française.
D'une autre société française.
Ah, décidément,
oui.
Hein.
Merci, merci à toutes et à tous. Femmes de Tunisie contre patron français, un reportage en Tunisie d'Antoine Chao. Merci à notre traductrice, Zelma Zguidi. Merci à Monia, Sonia, Irim. Merci à Pierre Souchon, à Jean-Christophe Gisbert. Vous pouvez suivre le combat de ces salariés tunisiennes en consultant leur page Facebook au comité de soutien aux syndicalistes de SEA. La Télec de Fouchana. Vous pouvez suivre heure par heure quasiment leur combat. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez également écouter Ce reportage sur le site labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, David Federman et Antoine Fortin. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Labas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Labas, si j'y suis. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
On peut pas s'en détacher de la Nièvre, hein, du Morvan. Voyons donc. Comme disait Mitterrand, les gens du Morvan, c'est comme leur granit, c'est du solide, c'est du vrai. Voilà ce qu'il disait, c'est vrai. Hein.
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait à Paris comme travail?
Je suis monté à Paris, j'étais boucher charcutier en 61, voilà. Ça n'a pas été facile, mais on a amélioré la vie quand même, sa vie quand même, parce que nous, on était paysans là-bas. Mon père était ouvrier de ferme et tout, alors là, on montait à Paris, quoi, pour plein de choses aussi, pour monter à Paris. Vous allez à Paris, on était, nous, en vacances, des petits paysans là-bas, dans le Morvan. Au juillet, août, toutes les Parisiennes venaient à Paris, elles repartaient fin août. Tiens, je l'ai retrouvée, j'en ai pas retrouvé une des vacances, mais j'ai retrouvé plein d'autres.
Ah, vous êtes marié avec une Parisienne?
Une Picarde que j'ai trouvée à Paris, naturellement. Ouais. Et vous êtes de la Nièvre, là?
Non, moi je suis de France Inter. Mais la France Inter, c'est partout.
Ah, France Inter, oui. J'aime beaucoup France Inter. Ah. C'est de la bonne information sans trop... C'est pas orienté, j'aime beaucoup les jeux là. Ah
non, le jeu des 1000 euros.
Le jeu des 1000 euros, voilà, c'est très très intéressant.
Bonjour à tous et bienvenue devant le ministère de la Culture à Paris où la Nièvre est venue faire la tournée des ministères. Ils sont actuellement reçus par un directeur de cabinet, comme on dit. Alors sur leur camionnette est écrit « La Nièvre fait la tournée des ministères, la ruralité, une force pour la France ».
Mais moi je suis originaire de Moulin-Gilbert. Château Chinon, vous voyez, hein. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, je vais aller leur dire bonjour.
C'était
pour Vendio. Ah, vrai, oui, monsieur. Ils sont vraiment de Vendio, moi. Ils sont nés là-bas, moi. Ils sont nés du côté de Château, là-bas.
Merci beaucoup.
Toute ma famille est là-bas. Vous connaissez peut-être le François Marceau, non?
Ah oui, qui est de Moulin-Saint-Gilbert.
Oui. À l'Adrie, avant. Oui. Mais vous avez un visage que je connais, là. Vous...
Saint-Hilaire en Morvan.
Comment vous appelez?
Pain. Payenne, Jean-Claude Pain.
Oui.
Tout le monde se connaît dans la Nièvre. On se retrouve tous à Paris.
c'est bien alors. Hein.
Et votre prénom?
Michel Leblanc, voilà, Michel Leblanc.
Mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas reparti dans la Nièvre?
Ah non, mais j'y vais très souvent quand même, le plus souvent possible. Hein. Mais Paris, vous savez, quand on est passionné de Paris, on ne quitte pas Paris comme ça.
Moi, c'est le contraire. Moi, on m'avait proposé, puisque j'ai été chauffeur de François Mitterrand, et lorsqu'il lorsqu'il était élu à la présidence de la République, il m'avait proposé, pas à l'Élysée, si je voulais être chauffeur dans un ministère. Et moi, je lui ai dit non, je préfère rester dans la Nièvre.
Mais Michel, vous avez des enfants?
Non, j'ai pas. Non. Pourquoi vous voulez savoir?
Parce que Jean-Claude, ses enfants, ils étaient obligés de quitter la Nièvre parce qu'ils ne trouvaient pas de travail et tout. Je me demandais si vous.
Non, mais moi, j'ai quitté la Nièvre en 61. C'était pour améliorer l'ordinaire. Hein.
Et alors, vous avez réussi à améliorer l'ordinaire?
Ah, honnêtement, oui. Ah, oui, quand même. Parce qu'à Paris, celui qui veut travailler. Moi, j'ai changé de métier 5 fois. Hein. J'ai débuté, je suis arrivé à Paris comme boucher charcutier, après livreur, puis après commercial. Et commercial, sans diplôme, sans rien, j'ai réussi à être dans un grand groupe pendant 20 ans, une filiale d'un grand groupe, comme quand même responsable commercial. Et on augmentait nos chiffres. Paris m'a tout amélioré nettement. Bien sûr, plus que nettement. Parce que là-bas, je vous dis, il n'y avait rien quand même.
Moi, je me sauvais de Saint-Hilaire, j'allais à la grande ville, à Nevers.
Bon, voilà. Bon, ça va parler où, votre...
France Inter.
Vous êtes sûr que c'est France Inter?
Non.
Parce que depuis le temps que je milite, moi, d'abord dans le temps communiste, après socialiste, après Mitterrand, et j'ai été fiché, hein.
C'est vrai?
Ah ouais. Sous De Gaulle, j'étais fiché, monsieur.
Ouais. En tant que charcutier?
Non. Non, en tant que manifestant anti-guerre d'Algérie, monsieur. Et avez-vous entendu parler du 8 février 62?
Non, j'étais pas né.
Ouais, d'accord, mais il y a eu quand même 9 morts à Charonne. Ça vous dit rien?
Ah oui.
Et ben moi, j'y étais. Et à partir de là, on était fichés pour... Et au service militaire, je me suis retrouvé un bataillon disciplinaire au fin fond de l'Allemagne parce que j'étais fiché par De Gaulle. Méfiez-vous, il y a les caméras.
Ouais. Vous pensez que je suis de la police, c'est ça?
Non, non, vous avez l'air sympathique. En plus, je fais partie d'un groupe folklorique. On est le dernier groupe folklorique, danse traditionnelle, en région parisienne, qui s'appelle Morvan Cœur de Bourgogne. Et on fait des démonstrations, on a de beaux costumes et tout. Ah oui. Et je trouve que le Conseil Général devrait ne quand même pas aller plus de nous, parce que nous, on fait résonner le Morvan quand même très souvent. Vous connaissez le Morvan Cœur de Bourgogne?
Oui,
bien
sûr, oui.
Eh bien, oui, moi, j'en fais partie depuis maintenant 15 ans. On fait des sorties et puis tout, on est très appréciés, voilà. Justement, nous, on est dans nos danses, nos groupes folkloriques. Ils nous ont mis, un moment de ça, c'était je ne sais pas qui, au ministère de la Jeunesse et des Sports. Est-ce que le danse folklorique, c'est de la culture? On ne devrait pas être au ministère de la Culture?
Il faut faire une grosse manifestation pour que la danse folklorique revienne.
Ils en ont.
On la camionnette quand on aurait terminé.
Les galvachés, ils en ont, eux, des subventions.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Oh, Dieu, un temps de quoi ça? Oh, il fait un temps de quoi ça, mais ça va aller de même. Bon, France Inter, à demain, si vous voulez bien.
Vous écoutez France Inter, il est 16h passé de quelques secondes. Les informations, Maxime Deps.
L'actualité d'abord et ses violences cet après-midi en Ukraine. Police et manifestants s'affrontent, place de l'Indépendance à Kiev en ce moment. Les forces de l'ordre ont enfoncé des barricades. Les autorités donnent une heure environ aux manifestants pour mettre fin aux troubles sous peine de s'exposer à des mesures sévères. 3 personnes seraient mortes aujourd'hui déjà dans ces affrontements selon l'opposition. 5 selon les derniers chiffres publiés à l'instant par la police. À distance, Berlin s'inquiète de cette flambée de violence et appelle au calme. Les 2 Pussy Riot interpellés à Sotchi aujourd'hui ont été relâchés par la police. Elles avaient été arrêtées ce matin dans le centre de la ville qui accueille en ce moment les Jeux Olympiques. Officiellement, les policiers voulaient les interroger dans le cadre d'une affaire de vol qui aurait été commis dans un hôtel. Un motif fantasque pour les 2 Pussy Riot libérés en décembre après avoir été condamnés à 2 ans de prison pour un chant anti-Poutine dans une cathédrale de Moscou. Sotchi, où la France compte 2 nouvelles médailles depuis ce matin. Une en or, d'abord signée Vautier, en snowboard. L'autre en argent pour le biathlète Martin Fourcade. La 3e de ces Jeux pour le Français. Tout de même un peu déçu. Il visait le record de 3 médailles d'or établi par Jean-Claude Killy. Martin Fourcade a finalement échoué d'un cheveu, battu de 3 petits centimètres seulement sur la ligne d'arrivée par le Norvégien Svensson. C'est fait, le conseil de surveillance de PSA a validé cet après-midi l'entrée de l'État et surtout du chinois Dongfeng au capital de l'entreprise, de sources proches du dossier. Une révolution pour une entreprise dite familiale depuis sa création. Le ras-le-bol du Premier ministre Jean-Marc Ayrault appelle toutes les forces de la nation à se rassembler dans un discours visant l'opposition et prononcé cet après-midi à l'Assemblée. Jean-Marc Ayrault estime que l'heure est au patriotisme et non, je cite, au France bashing. La France redémarre, selon lui, s'appuyant sur les prévisions de croissance meilleure que prévu. Le Premier ministre invite l'UMP à se réjouir lorsque les chiffres sont meilleurs plutôt que de continuer à dénigrer le pays. Fin de citation. L'enquête s'accélère dans la fameuse affaire de la tuerie de Chevaline en Haute-Savoie. Un suspect, un homme originaire du département, a été placé ce matin en garde à vue. Une perquisition est en cours également à son domicile après 18 mois d'enquête. C'est la première arrestation en France dans cette affaire. Et puis Nicolas Anelka devrait finalement être entendu en début de semaine prochaine par la Fédération anglaise de football, et ce pour sa fameuse quenelle controversée du 28 décembre dernier, considérée par certains comme un geste antisémite. L'ancien international avait commis son geste dans une rencontre du championnat anglais. Nicolas Anelka risque plusieurs matchs de suspension.
Tous les soirs, à partir
partir de 21h, les soirées musicales d'Inter.
Hip-hop, garage, grime, metal, bass,
du lundi au jeudi,
Cosmic Fantasy.
Retrouvez Barbara Carlotti.
Défiez les lois de la gravitation musicale en la propulsant dans l'espace.
À 22h, Aurélie Sfez.
Avec vous, Baptiste Etchegaray.
Mais oui.
Techno.
Des jeunes qui font du rock avec Bartok.
House.
Des artistes qui font l'amour avec des artistes.
Ghetto House.
Parce qu'on est ouvert la nuit.
Grunge, black metal, Norwegian metal.
À 23h15.
On n'oublie pas, hein, là.
Laura Lichmann.
Des nouveautés de tous les styles, tous les genres, tous les styles, tous les genres, tous les styles.
Et 2 heures d'addiction le vendredi à 21h.
Risque de dépendance.
Avec Laurence Pierre.
Légitime dépendance.
Retrouvez les soirées musicales d'Inter.
Les programmes.
Les rendez-vous.
Sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Allez, à 16h04, vous le savez, c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon. Avec vous, Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Maxime Debs, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous. Dans quelques minutes, à 16h30, je recevrai le grand guitariste Miloš Karadaglić, qui propose un nouveau disque depuis hier à Aranjuez. Il y a évidemment le fameux concerto d'Aranjuez de Rodrigo, puis d'autres pièces un peu moins connues, mais très très passionnantes aussi. La fantaisie pour un gentilhomme du même compositeur, par exemple. Et ce matin, dans Service Public, avec Guillaume Erner, on a parlé d'éducation musicale. Alors justement, l'éducation musicale, ben pour moi, c'est souvent un maître, on peut dire une maîtresse, enfin quelqu'un qui montre l'exemple et qui donne comme nourriture instrumentale, spirituelle, vocale à ses élèves, des compositions telles Jean-Baptiste Arban, qui jouait du cornet, qui était un grand maître du cornet, puis qui a écrit plein de pièces qui ont formé de beaux instrumentistes. Et on a un ami qui s'appelle Franck Pulcini, ami de la trompette, du cornet. Il est trompette solo dans un grand orchestre allemand, l'orchestre de la radio du sud-ouest de Baden-Baden et de Freiburg. Et voilà, il nous a envoyé ce disque, un hommage à ce grand pédagogue et joueur de cornet que fut Jean-Baptiste Arban. Caprices et variations. Thank you. Conclusion de Caprice et Variation de Jean-Baptiste Arban, fameux cornettiste et trompettiste aussi, bien sûr, français, interprété par Frank Pulcini au cornet avec Mireille Méraud au piano. Donc un très joli disque avec plein de pièces d'Arban. Vraiment, c'est très, très instructif. Quant à Frédéric Chopin, il a écrit des études. Alors évidemment, c'est pour montrer toutes les capacités du piano. Il était lui-même un pédagogue très demandé, pas seulement par les jeunes filles de bonne famille, mais tout le monde essayait de comprendre les mystères de la souplesse de son poignet, sa virtuosité qui ne forçait jamais. Et Chopin, évidemment, nous a offert non seulement des études, mais de véritables pièces d'invention musicale, des moments de poésie parfois, ou d'évasion, ou de pure virtuosité. Huitième étude de Chopin.